8h51, on parle souvent de violence, d'abus physiques, d'abus verbaux, par exemple, dans les écoles primaires même, secondaires aussi. Mais ce matin, on va parler d'une étude qui touche la violence dont sont victimes. Et là, on peut inclure toutes les formes de violence physique, psychologique. Les gens qui œuvrent en protection de la jeunesse, Steve Geoffrion est professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et chercheur. Il a été aussi intervenant à la DPJ pendant une période de 8 ans. Monsieur Geoffrion, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan. Merci de nous recevoir.
Première question. À la fois, c'est pas étonnant de savoir que des gens qui travaillent dans des milieux en difficulté, avec des enfants qui ont des problèmes, des familles, des couples qui ont des problèmes, qu'il y ait, que ces travailleurs-là soient exposés à de la violence.
Bien, dans les faits, non, c'est pas étonnant parce qu'en fait, c'est le bout de ligne des services. Donc, les jeunes qui ont vraiment des problèmes d'adaptation, des jeunes qui ont vécu de l'abus, sont en grande détresse, vont finir par peut-être avoir des services de la protection de la jeunesse. Et ces gens-là sont formés pour aider ces jeunes-là à travailler leur comportement pour aller vers une expression de détresse psychologique plus adaptée que la violence. Donc, il fait en sorte que, oui, ils vivent de la violence. Et c'est même une des mentalités que notre étude démontre que, dans le fait, il y a une culture de « bien, ça fait partie du travail ». Il y a des pour et des contre à cette mentalité-là, par
contre. Quand vous dites cette mentalité ou cette culture de la violence, qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais en fait, c'est que les gens se disent « ben oui, ça fait partie de mon travail, vivre de la violence tôt ou tard dans ma carrière », parce que c'est des jeunes, c'est des parents qui ont des problèmes psychosociaux qui vont exprimer justement cette violence-là, toute la détresse par la violence. Ça peut être positif parce qu'on peut voir ça, dans le fond, nos études nous montrent que les intervenants vont dire « ben tu sais, c'est une manifestation d'un problème, donc nous, ça va créer de l'empathie, on va les aider avec ce problème-là ». Mais des fois, à long terme, en vivre de façon quotidienne, comme on peut le voir avec nos études, mais ça fait en sorte que les gens se disent, ben, à un moment donné, ça devient lourd, hein, puis on commence à être tanné de ça, donc on a moins d'empathie envers la clientèle, surtout si les gens perçoivent que la violence a été gratuite, que c'est pas nécessairement une manifestation d'un problème.
Les gens que vous avez rencontrés, pourriez-vous nous donner des exemples de situations qu'ils ou qu'elles ont vécues?
Bien, voyez-vous, notre étude, dans le fond, c'est une étude qualitative qui avait 30 personnes qu'on a rencontrées, mais moi, ça fait partie de plusieurs études que je fais avec les intervenants de la protection de la jeunesse depuis 10 ans. Puis en fait, les manifestations de violence, je vous dirais que la majorité du temps, c'est vraiment de la violence verbale, de la violence psychologique, des menaces, des insultes. Ça, c'est vraiment le quotidien des intervenants. La violence physique grave, c'est rare. C'est environ 5 % des intervenants qui vont en vivre. Mais de la violence physique qui ne cause pas des blessures, là, c'est près de une personne sur deux qui vont en vivre à chaque année. Donc, ça peut être autant se faire pousser, se faire mordre, mais aussi ça peut aller jusque dans des séquestrations, prises d'otages dans des centres de réadaptation. Ceux qui travaillent à l'interne, donc les éducateurs avec les jeunes, à chaque jour, en vécu partagé, se lèvent avec eux, puis, je veux dire, tu les accompagnent dans leur routine à l'école, eux vont vivre beaucoup plus de violence au quotidien, mais ils ont un environnement autour d'eux qui est là, dans le fond, pour les aider à gérer cette violence-là.
Bon, moi, je vais essayer de distinguer, là, puis vous me direz, ça a du sens. Les enfants ou les ados et leurs parents. Parce que la violence peut venir également des parents, là.
C'est ça. Donc, il y a l'éducateur avec les jeunes, mais il y a aussi tous les autres, les psychoéducateurs, travailleurs sociaux qui vont dans les milieux. Bien, eux sont exposés, dans le fond, aussi à la violence que les parents peuvent quand on arrive à là-dessus. Il n'y a personne quand on cogne à la porte. Bonjour, c'est la DPJ qui a une réaction. Oh, bienvenue à la maison.
Donc, c'est sûr.
Il peut avoir, comme notre étude nous montre, c'est que souvent les parents peuvent les attendre. Ils sont déjà fâchés, vont décider de peut-être s'en prendre verbalement à eux. Et là, on ne sait pas jusqu'à quel point ça peut se désorganiser. Et là, on est pris, l'intervenant, on avait des cas qui sont pris dans le salon de la personne et la personne se met à menacer, prendre un couteau et les menacer. Donc, c'est un autre type de violence qui peut avoir vraiment beaucoup d'impact au niveau des conséquences psychologiques. Et c'est ce que notre étude démontre aussi.
OK. Quelques questions. D'abord, comment vous formez quelqu'un qui doit intervenir, que ce soit auprès d'un jeune ou ses parents, là, pour faire face à ces situations-là de violence?
Mais en fait, la formation académique, c'est une chose. Donc, la formation académique vont beaucoup comprendre les besoins cliniques de ces jeunes-là, de ces parents-là. Et après, quand on commence, dans le fond, là, dans le réseau, bien, il y a des formations selon quel centre on est. Donc, il y a la formation Omega, il y a la formation ITCA. C'est des formations qui nous apprennent à voir les signes précurseurs de la violence et savoir comment intervenir en fonction de différentes phases, justement pour diminuer, prévenir la violence. Mais souvent, ces gens-là ont des problèmes de santé mentale. On ne peut pas tous les voir venir, les signes précurseurs. Et là, en une seconde, il peut y avoir agression.
Je reçois beaucoup de courriels de gens qui ont vu la DPJ entrer dans leur vie. Puis quand, comme vous dites, là, c'est pas agréable, on n'est pas accueilli à bras ouverts. Mais souvent, puis là, je veux pas faire de cas particulier, mais ce qui me frappe, ce sont des gens qui souvent dénoncent l'arrogance d'un travailleur qui intervient ou d'une travailleuse qui va dire « J'ai du pouvoir, là, je peux faire les démarches pour t'imposer des mesures, retirer les enfants. » Et beaucoup de gens se sentent attaqués comme parents, c'est sûr, mais comme citoyens en même temps. devant ce pouvoir qu'ils ont devant eux. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents-là?
Mais là, en fait, tu sais, ça va peut-être au-delà de mes études, mais dans les faits, même les intervenants savent que c'est la réaction, dans le fond, qui vont susciter leur intervention, car c'est vraiment, tu sais, on le voit avec aussi dans d'autres études des intervenants de protection de la jeunesse dans le monde, mais tu sais, on a un mandat, on va venir voir vos enfants, on va servir de votre protection, puis les enfants, c'est souvent le bien le plus précieux qu'on a. Donc, ça peut créer souvent beaucoup de conflits en début d'intervention. Mais c'est là qu'après ça, si l'intervenant est suffisamment formé, outillé, il a quand même cette vocation-là, est capable, dans la façon relationnelle, d'amener les parents ou d'amener justement à diminuer cette tension-là pour que tout le monde travaille ensemble dans l'intérêt de l'enfant.
J'ai une autre question qui n'est pas directement sur votre étude, mais ce que vous décrivez là, sur ce phénomène de violence là, qui, j'allais dire, est inhérent un peu au travail, est-ce que ça amène à un taux de roulement plus élevé?
Mais en fait, c'est ça. Ce qu'on voit, dans le fond, là, la conséquence, le problème psychologique qu'on voit le plus souvent, c'est le trouble de stress post-traumatique chez les intervenants. Mais c'est des intervenants qui ont la protection, la santé de ces enfants-là à cœur. Donc, il y en a qui prennent pas d'arrêt de travail, mais qui continuent à travailler avec les manifestations de troubles de stress post-traumatique. Mais à un moment donné, t'es usé. Donc, ça finit qu'il y a beaucoup d'absentéisme et beaucoup de roulement de personnel dans
le
réseau.
Au niveau de l'enseignement, on sait que beaucoup de profs quittent dans les premières années où ils commencent.
Oui.
Et que donc il y a un roulement puis une difficulté de recrutement. Est-ce que c'est la même chose pour la DPJ?
C'est la même chose. Et en fait, on voit vraiment avec nos études, quand on regarde les chiffres, dans le 0-5 ans, les 5 premières années, il y a beaucoup de roulement. Puis en fait aussi, en protection de la jeunesse, mais tu sais, les conditions de travail, mais c'est de jour, de soir, de fin de semaine. Tu peux travailler en urgence et avoir ton padjet pour être appelé à n'importe quel moment. Donc, des fois aussi, toutes les conditions, on dit, ben, on va aller travailler dans un milieu en psychoéducation ou en travail social qui a peut-être moins d'adversité, qui a moins de violence.
Encore là, je ne sais pas si c'est connecté à vos études, mais avec votre expérience, souvent, c'est un choc culturel pour beaucoup d'intervenants de la DPJ d'arriver dans des milieux là, qui n'ont jamais connu de leur vie. Tu as beau l'enseigner, mais tant que tu ne l'as pas vu, c'est pas les mêmes valeurs. Ça ne veut pas dire que les enfants sont nécessairement en danger, mais ils arrivent d'une formation universitaire, d'un milieu de vie personnel, dans un autre univers complètement.
Mais ça, on le voit beaucoup, en fait. Puis moi, je peux même vous parler de ma propre expérience. Même si on avait fait 5 ans d'études, puis on en a parlé, puis on en a vu des livres, puis on a vu des vignettes cliniques et des stages, mais quand c'est les premières fois que tu vois des gens qui vivent ces difficultés-là, puis qui peuvent avoir des réactions agressives envers toi, mais les premières fois, tu n'es pas nécessairement outillé pour bien réagir à ça. Donc oui, ça peut amener beaucoup de stress dès le début de carrière qui vont se développer en d'autres conséquences psychologiques si la supervision clinique ou le soutien n'est pas là. Et vous voyez, c'est le but là, de mes recherches depuis les 10 dernières années. On le sait que les intervenants de protection de la jeunesse vivent la violence. Il y a une bonne partie qui sont capables de très bien gérer ça, mais il y a quand même un 20 25 % selon nos études qui ont des conséquences psychologiques et on travaille maintenant avec les milieux à implanter du soutien psychologique.
Est-ce que c'est plus difficile, par exemple, dans des centres urbains comme Montréal, qu'en région?
Ben, c'est différent. Puis, en fait, dans le fond, ce qu'on sait, un des meilleurs facteurs de protection pour la santé psychologique des intervenants, c'est ce soutien social-là. Donc, c'est sûr qu'à Montréal, il y a moins de mobilité. Donc, les gens sont proches, peuvent revenir au bureau, parler avec des collègues. Mais si on prend en région, des fois, on peut faire 2-3 heures de route avant d'aller voir un client, revenir. Puis là, on est isolé, puis on a un cas, nous, dans notre étude, quelqu'un qui va intervenir en région. Et là, la personne l'attend, le parent l'attend chez eux avec un arme, un 12, tu sais, pour dire, ben, tu t'en viens à la maison. Fait que revenir au bureau, avoir le soutien, il peut avoir plus de temps avant d'avoir la protection, mettons, du soutien social.
M. Geoffrion, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci, M. Arcan.
Steve Geoffrion est professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal, chercheur et donc aussi, il a été intervenant à la DPJ de 2007 à 2015.